Gravel dans le retour, le plus solide duo depuis Jack et Meg White.
On a eu une belle journée aujourd'hui, malgré tout, ça sentait frais, ça sentait le croustillant. Oui, je suis d'accord avec toi, Audrey.
Je suis contente que tu dises ça.
Cette espèce d'odeur-là très fraîche, oui. Elle me plaît quand même pas mal. Mais là, à partir de demain, ça va être un petit peu plus humide parce qu'au courant de la nuit, il y aura un très bon refroidissement. Même si le minimum est prévu à moins 4 à cause du vent, c'est un refroidissement éolien qui va nous mener à moins 8. Donc, les précipitations qu'on avait de prévues risquent fort de se changer en neige. Si c'est pas ce soir, ça va être dans la soirée de demain. On parlait d'accumulation de neige allant jusqu'à 2 cm. Pour ce qui est de la journée de samedi, selon les différentes applications, soit on va avoir du soleil, des nuages, soit on risque d'avoir un petit peu d'averse. C'est la finale provinciale pour le Rouge et Or qui va affronter les Carabins. Dans la journée de dimanche, on a de la pluie avec un 3 degrés et on pourrait encore une fois avoir de la neige. On parlait même d'un 5 à 10 cm de neige à un moment donné. Ça reste à voir. Si vous avez l'intention de prendre la réserve phonique des Laurentides en auto, soyez avisés que depuis quelques jours déjà, il y a de bonnes précipitations. Sur la route, ça se nettoie quand même assez bien, mais ça peut surprendre si vous n'êtes pas équipé pour.
Justement, dans le coin, direction sud, à la hauteur du kilomètre 145 dans le secteur Lac-Jacques-Cartier, la voie droite est bloquée. Il y a un accident. Peut-être vous rappeler les ralentissements habituels. Capitale-Est entre Henri IV et Laurentienne. Ouest entre Bourg-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale. Des problèmes sur Henri IV Sud, entre Charest et les ponts. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, Charest et le pont La Porte aussi. Charest direction Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Ouest, entre Henri IV et Duplessis. Il y a un ralentissement inhabituel sur Henri IV Nord, dans le coin de la capitale. Plus haut, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, c'est pas terminé. Route de la Bravo dans les deux directions. Route de Fossambeau entre Désérable et de la Jacques-Cartier est particulièrement difficile en ce moment. La 20 direction Ouest est entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles. Quelques problèmes à la hauteur de Taniata. Vous voyez quelque chose d'autre? C'est le 88-971-102 texto.
Demain à 7h06, si vous écoutez Boulevard 102.1, faites pas le saut, vous allez entendre Denis Gravel et vous allez entendre Pierre Houde. C'est qu'on vous fait un cadeau et on nous fait un cadeau du même coup à Audrey puis moi parce que c'est une entrevue qu'on n'a pas entendue. Cette année, on soulignait les 50 ans de carrière de Pierre Houde et Denis a eu l'opportunité de s'asseoir avec lui pendant un genre de 60 minutes où on passe plusieurs états de la carrière de Pierre. Puis Pierre et Denis ont une relation qui fait qu'ils sont capables d'aller à des endroits où personne d'autre va dans ces discussions-là. Fait que exclusivement sur les ondes demain, cherchez-les pas ailleurs par la suite. On vous offre ce moment-là pour souligner les 50 ans de carrière de Pierre Houde. Fait que demain, 16h dans Gravel dans le retour, mais faites-vous-en pas. On va être là pareil pour la balance de l'émission. Aujourd'hui, dans la presse, il y a un texte d'Isabelle Haché qui a retenu mon attention, puis pas juste la mienne. Si parfois vous aviez une condition de santé et qu'on était en mesure de savoir avec beaucoup plus de précision si vos jours sont comptés. Il y a un programme qui a été travaillé dans les dernières années. En fait, ça fait 6 ans que le docteur Jean-François Etier et son équipe de chercheurs travaillent à un outil qui fait que l'intelligence artificielle peut aider à prédire le décès d'un patient dans l'année qui suit leur hospitalisation. Lui, c'est un interniste, fait que c'est sa job d'essayer de voir dans quel horizon tout ça peut arriver. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que même lui se faisait bypasser parce que des fois, il y a tellement de variables. Tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une condition qui va être un petit peu plus apparente, mais à travers tout ça, il va avoir un peu de diabète, un peu de problèmes respiratoires, un peu de ci, un peu de ça. Puis le cerveau humain, il a des bonnes capacités, mais pas autant que des outils d'analyse qui vont être très, très poussés. Fait qu'on a investi de l'argent dans ça pour aider, entre autres, à prendre des décisions. Puis c'est du côté du CIUS de Sherbrooke qu'on avait commencé à mettre ça en place, puis on devait commencer à l'utiliser au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Mais ils se sont fait couper l'herbe sous le pied, puis on peut penser qu'entre autres, c'était à cause d'une coupure de fond. Mais vous comprendrez qu'avec cette manière de faire-là, ça ouvre la porte à prendre peut-être des décisions plus éclairées et plus conscientes sur la suite des soins quand vient une hospitalisation. Ça nous a ouvert la porte à s'asseoir avec Farnell Morissette, qui est vulgarisateur d'actualité et qu'on apprécie beaucoup, pour parler en partie d'acharnement thérapeutique, mais entre autres comme société, on n'a pas le goût de se faire imposer à un moment donné est-ce que oui ou non on donne des soins parce que ça va coûter trop cher ou la personne est trop âgée. Fait que c'est la discussion qu'on va essayer d'avoir ensemble en étant tout à fait ouvert. Farnell, salut.
Salut, comment ça va?
Ça va super bien. Puis j'aime ce genre de discussion-là qui relève beaucoup plus de la philosophie que uniquement de la science.
Oui, et mettons-nous tout de suite dans le bon état d'âme, là, parce qu'on va parler de choses qui sont sensibles pour toutes sortes de très bonnes raisons.
Tout à fait.
Mais rappelons-nous tous qu'on est tous des êtres humains. On veut tous le bien de tout le monde. Alors, on en parle d'un point de vue de bonté. Là.
Quand on en a jasé un petit peu plus tôt en se demandant si vous pouviez savoir votre date de décès, voudriez-vous la savoir? On en est venu à parler de l'aide médicale à mourir. Tu sais, le Québec, on le prend pour acquis, ça existe maintenant.
Ça a été une longue lutte,
par exemple. Ça a été une longue lutte, puis tu sais, il y a eu beaucoup d'opposition par rapport à ça. Des gens qui voyaient ça comme étant de l'euthanasie quand tu rentres la religion là-dedans. Mais c'est une conversation qu'on a dû avoir. Puis actuellement, ben, il y a des Québécois qui sont privilégiés de pouvoir prendre cette décision-là. Fait que je me dis qu'on est rendu assez grand pour aussi avoir cette conversation.
Ouais, je pense que oui, il faut se rappeler, c'est pas tout à fait un acquis encore non plus.
Il y a
des places dans le monde où ils ont avancé, ils ont reculé un peu. Au Québec, au Canada, ça a pris presque 10 ans entre un refus initial de la Cour suprême à finalement reconnaître que c'était un droit dans certains cas. Mais c'est fragile, il faut s'en rappeler.
Pour ce qui est de donner des soins ou arrêter de donner des soins. T'sais, on s'en est déjà parlé à quelques reprises, le fameux péril gris. En fait, c'est statistique, c'est démographique. Là. Les baby-boomers s'enlignent dans la portion de leur vie où ils vont être beaucoup à devoir bénéficier du système de santé. Puis notre système de santé, on l'a vu, là, une pandémie suffit à ce que tout à peu près s'effondre.
Ou un projet de loi.
Plus récemment, ben un projet, en fait, une loi 2 carrément, qui fait que ça part de tout bord, tout côté. Ta vision de ça, toi?
La première chose que je constate quand on parle de ça, c'est qu'en tant que société, on n'a pas le rapport avec la mort qu'on a déjà eu. Puis là, je ne vais pas prétendre avoir la grande sagesse de comment c'était il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais aujourd'hui, la mort, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver. T'es pas supposé mourir. On comprend tous un peu intellectuellement que oui, éventuellement, on va y passer, mais c'est pas aussi proche de nous que ce l'était, disons, il y a 100 ans, où un enfant sur deux vivait pas passé 5 ans.
On l'oublie, ça.
On l'oublie, ça. Puis c'est pas il y a si longtemps que ça, là. Je veux dire, c'est de la mémoire vivante encore pour bien des gens. Mais parce qu'on a plus ce rapport-là, parce qu'on a comme une espèce de relation à la mort auquel on n'est comme pas supposé mourir, quand le temps vient d'y penser, on est un peu socialement, culturellement dépourvu de la capacité de faire face à ça et surtout de la capacité de le faire face avec les gens qui sont supposés nous conseiller là-dedans, avec nos amis puis avec les experts médicaux aussi.
Trouves-tu qu'on... C'est cru, mais trouves-tu qu'on s'acharne des fois peut-être trop à... Je veux pas dire sauver quelqu'un parce que justement, ça manque d'humanité dit comme ça, mais...
À prolonger quelqu'un?
À prolonger quelqu'un, ouais.
Je vais pas parler au « on » parce que ça glisse vite dans des situations où genre, bon, ben qu'est-ce qu'on devrait imposer comme choix aux autres?
Je veux pas qu'on impose rien,
non,
moi.
Exactement. Je pense qu'on devrait... Ça devrait absolument être le choix de la personne concernée. C'est-à-dire la personne qui fait face peut-être à la fin de sa vie ou si cette personne-là est en perte de capacité ou était incapable à sa famille et seulement. Mais peut-être que justement parce qu'on n'a pas les outils culturels, sociaux pour parler d'avance de qu'est-ce qu'on veut comme fin de vie, on arrive à la fin où, bon, ben là, papa vient d'avoir une crise cardiaque puis il est en coma, il faut qu'il passe d'urgence à une opération à cœur ouvert puis on demande à fiston, on demande à fille, ouais.
Prends la décision,
là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si la discussion n'a pas eu lieu d'avance, je comprends totalement que la réaction, ça va être, ben, faites absolument tout.
Ouais.
Faites absolument tout. Mais, et puis après ça, à y penser, si la discussion avait eu lieu d'avance, peut-être que quelqu'un aurait pu dire, ben, tu sais, j'ai eu cette discussion là avec mon père, il est content, il a eu une très bonne vie et on l'aime beaucoup et on a confiance que c'est réellement sa décision à lui et il a décidé, lui, que ça valait pas la peine de s'acharner. Ou peut-être qu'il a décidé, oui, faites absolument tout, je me sens encore pétant de vie, j'ai encore 20-30 ans devant moi, je m'en fous de l'espérance de vie, moi j'y crois, ben là, on fait absolument tout pour le sauver aussi, évidemment.
C'est pas considéré comme de l'aide médicale à mourir, parce que c'est ben, évidemment différent comme situation. Mais techniquement, c'est quelque chose qui est possible là, au Québec.
Si, on refuse soin,
oui. Ben oui, oui tout
on refuse soin, c'est absolument possible.
Mais qui va mener à la mort de la personne. La personne, elle s'en rend compte, puis elle dit c'est beau, refus de soin, puis on le sait, puis tout le monde est d'accord. Mais c'est pas considéré comme de l'aide médicale à mourir, c'est à cause que c'est un refus de soin.
Ouais, la différence entre un refus de soin et l'aide médicale à mourir, c'est que l'aide médicale à mourir, tu amènes la mort activement. C'est-à-dire, c'est, tu causes la mort d'une personne qui n'aurait pas. pas, qu'il serait pas mort autrement.
À ce moment-là.
À ce moment-là. Il serait, tu sais, généralement, un des critères, c'est qu'il
c'est
faut
la fatalité.
Que, c'est ça, c'est que la mort s'en vient. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est activement causer la mort d'une personne pour qui la mort est inévitable, qu'il y a toutes sortes de critères. Le refus de soins, c'est juste de ne pas soigner quelqu'un et ou de faire des soins palliatifs, s'assurer qu'il est dans le meilleur confort possible, mais laisser la mort naturelle venir par elle-même.
Là, dans le cas dont on parlait, le projet qui est en place, ça veut dire que toi, comme personne, mettons, tu rencontres ton médecin, il dit « il y a une opération qui serait possible pour votre condition, mais à cause des facteurs A, B, C, D, on pense que de toute manière, il y a un risque ou de toute façon, on ne sera pas en mesure de vous amener tant plus loin que ça dans la vie. » Là, ça amène une toute autre dynamique parce que c'est pas juste les proches.
Ouais.
Ça peut être directement la personne qui est concernée qui va dire « Hey, moi, le pacemaker, je vais laisser faire parce que de toute manière, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, je serai plus là. » C'est un peu ça la conversation qu'on peut avoir aussi.
Oui, c'est une conversation. Puis ça aussi, je comprends que c'est une conversation qui est difficile, surtout quand on parle d'outils d'intelligence artificielle parce qu'on commence à avoir des robots et des affaires de même. Mais fondamentalement, là, est-ce que quelqu'un peut sérieusement imaginer une situation où on est mieux servi par le fait d'avoir moins d'informations et des experts moins bien informés pour nous donner les conseils impartiaux les meilleurs disponibles? Je ne penserais pas. C'est sûr que puis la ligne est mince, il faut faire attention. Mais dans la mesure où on est toujours en train de parler d'experts médicaux qui donnent de l'information, la meilleure information possible par les meilleurs outils possibles de façon impartiale, je crois que c'est toujours à notre avantage de l'avoir.
Si on apprenait comme société à avoir ces discussions-là plus tôt, je ne sais pas si ça se fait par une sensibilisation ou si c'est par les médecins qui apportent justement ça sur la table. Mais est-ce que ça aiderait notre système de santé? Tu sais, je me dis, par le fait qu'on a une société vieillissante, si c'est un message qui se propage tranquillement, pas vite, qu'on peut avoir ces discussions-là de ne pas s'acharner.
Est-ce que c'est pas l'âge nécessairement.
Oui, est-ce que tu as l'impression que peut-être notre système souffrirait moins un peu?
Ben, j'ai pas juste l'impression, la preuve est faite. On a fait des gros efforts pour encourager les gens à avoir des discussions avec leur famille sur le don d'organes.
Oui,
et le don d'organes est monté en flèche et on a sauvé des vies grâce à ça. Alors, de la même façon, on pourrait... Encore une fois, je ne sais pas comment, là, il va falloir le faire avec énormément de sensibilité, mais si on était capable d'encourager les gens à avoir une discussion sur le don d'organes qui implique nécessairement une discussion sur la mort, peut-être qu'on pourrait aussi encourager les gens de tous âges, tu le dis très bien, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question
pas.
De santé et d'absence de santé, d'encourager les gens à avoir une discussion aussi sur qu'est-ce que moi je considère acceptable comme risque, qu'est-ce que moi je considère acceptable comme vie potentielle après une intervention. Si je vais être incapable de m'occuper de moi-même pour le reste de ma vie, est-ce que je suis confortable avec ça ou pas? C'est quoi mon seuil de risque acceptable? Avoir ces discussions-là avec sa famille, avec ses êtres chers, dans un monde idéal où on a un système de santé infini, si on pouvait l'avoir avec des experts médicaux qui sont là pour nous conseiller, encore une fois, de façon impartiale, là, pas là pour nous guider vers une décision, mais juste nous donner la meilleure information possible. Je pense que non seulement il y aurait des économies énormes du côté du système de santé, mais encore plus important que ça, et je dirais même le seul critère important de ça, c'est qu'on aurait des vies probablement plus agréable.
Une qualité de vie.
Une qualité de vie meilleure et on aurait beaucoup plus de paix face à une fin de vie qu'on ne contrôle pas.
Parce qu'on s'en est déjà parlé, entre autres, Élise Vierger-Pelletier, urgentologue, puis moi, on avait fait un podcast, il était une fois la santé, puis on faisait la distinction entre l'espérance de vie puis l'espérance de vie en santé, puis la statistique est vraiment différente. T'sais, si l'espérance de vie dépasse les 80+ au Canada, l'espérance de vie en santé peut être pas mal plus bas que ça, mais c'est une moyenne.
Tu sais, parce que personnellement, moi, je préfère... Tu sais, puis c'est pas, je dis de même, c'est sûr que là, je dis ça, puis j'ai pas encore des enfants qui aura peut-être des enfants, puis il y a des facteurs que j'ai pas, mais je me dis...
Non, mais justement, c'est le temps de commencer à y penser, là, quand t'es pas au pied du mur.
Mais je préfère mourir à 68 ans de ma belle mort naturelle que d'être dans un hôpital à me faire shooter toutes sortes d'affaires pour survivre jusqu'à 85 pour dire que...
Pendant 15 ans.
Oui, c'est ça.
Mais puis la prochaine question que j'ai, je sais pas comment la poser sans me faire cancel. Mais...
on est dans une zone d'humanité.
On est dans notre safe space.
Safe space, on est
non, mais c'est l'aspect économique de la chose. Parce que on est dans une société où la santé, c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. On paye pas tout pour ça, mais individuellement, ça coûte rien. On donne la situation A, t'as un enfant de 5 ans qui est atteint d'une maladie A, il y a un remède qui coûte 120 000, ben la l'acceptabilité sociale va faire en sorte que ce remède-là pour cet enfant-là va lui permettre de vivre peut-être un 80 années de supplémentaire. OK, le coût en vaut la chandelle. T'as la situation B où t'as une personne qui a la même maladie que l'enfant de 5 ans que je viens de donner. Cette personne-là a 95 ans. Et le même remède coûte 120 000 aussi. Est-ce que là, l'acceptabilité sociale est là que la société paye ce prix pour une personne de 95 ans?
C'est légitime.
Tu vois, cette question-là, on se l'est posée en tant que société. Mm. Et on a une réponse. Puis c'est une réponse que je dirais quasiment officielle, c'est qu'on considère que toutes les vies se valent. Puis ça, ça a été mis très au clair pendant la pandémie où on a fait des pieds, des mains, des efforts sociaux énormes pour sauver des vies de gens qui étaient un peu plus âgés. Puis c'est là qu'il faut faire vraiment attention à ne pas tomber dans l'âgisme, justement. Il faut faire vraiment attention à ne pas tomber dans des espèces d'évaluation, de triage, comme si on était en guerre. On n'est pas en guerre.
Ouais, tu ne veux pas être traité comme une poubelle non plus parce que tu as 75 ans.
Là, ouais. c'est, je veux dire, l'espérance de vie, c'est de 82-83 ans. Ben, allez dire ça à Jeannette Bertrand, que les dernières 20 années de sa vie, statistiquement, valaient rien. Ouais. J'y crois absolument pas à ça. Puis je sais que ce n'est pas ça que tu es en train de dire, là. Mais c'est parce que c'est parce que je sais que quand on commence à parler de ça, puis c'est vrai que c'est un facteur dans la discussion, ça devient vraiment trop facile à accuser les gens de dire « Ah, ben t'es en train de faire des décisions actuarielles avec la vie des gens. » Ça, c'est quelque chose qui est acceptable à faire si on est dans une zone de guerre de triage ou si on est sur un bateau qui est en train de couler. Mais on est, la société occidentale en général, une des sociétés les plus riches de l'histoire de l'humanité. On est capable de faire des choix différents. Il faut juste décider de les faire. Ça change pas qu'il va toujours avoir des coûts à tout. Mais avant de commencer à faire des choix actuariaux, des choix de qui on sauve en fonction de combien de ressources on a, assurons-nous qu'on a au moins maximisé nos ressources.
Si on laisse de côté justement ce volet-là d'économie qui est absolument terrorisant, puis on ne veut pas se rendre là comme société, qu'à un moment donné, ça puisse décider ou non qu'on donne des soins, mettons que demain matin, on est capable de proposer à un patient, de lui dire « Hey, voici le plan de match. Soit tu es capable de vivre tant de mois encore, parce que là, c'est à l'intérieur d'un an. On parle de gens qui sont hospitalisés. Là. On parle pas de quelqu'un qui a quelques problèmes de santé puis qu'on va lui dire dans 25 ans, c'est fini. On parle quand même de quelque chose qui est à court terme à l'intérieur de 12 mois.
Avec une précision parfaite.
Avec une précision presque parfaite. Mm. On parlait de 85 %.
Okay. Une bonne précision quand même.
C'est une bonne précision, puis on parle d'un an. Fait que ça, on sort de ça, les miracles, les traitements, les tout ce que vous voulez. Moi, si c'est le médecin directement qui m'en parle tout seul puis que c'est moi qui dois prendre la décision... Je suis pas sûre que je suis apte à prendre une décision éclairée. Dans quel serait le meilleur mécanisme pour s'assurer que la personne qui reçoit ces informations-là n'aura pas de pression externe ou n'aura pas de stress de « oh, je vais coûter cher » ou quoi que ce soit?
Ben, c'est super intéressant. J'ai parlé à une de mes très bonnes amies qui est médecin de ça. Puis elle, une des choses qu'elle m'a dit, qui m'a frappé, c'est que dans les 20 dernières années environ, on a perdu les aumôniers dans les hôpitaux.
Hein, le côté spirituel.
Oui, puis un aumônier, c'est ça, c'est quelqu'un qui pose...
C'était les derniers sacrements dans le temps.
C'est ça, oui, exactement. Mais tu sais, aujourd'hui, dans la façon que ça se faisait avant, c'était plus nécessairement quelqu'un qui était d'une religion particulière. Il y avait des aumôniers de toutes les religions et de pas de religion. Mais que eux, parce que justement, de un, ils étaient techniquement pas des employés de l'hôpital, c'était plutôt des employés communautaires ou des employés de communautés religieuses. Ça fait une certaine distance entre le médecin, l'hôpital, l'institution, le gouvernement et la personne. Mais aussi, en sachant que l'aumônier venait, ça aidait les familles à être présents aussi pour avoir ces discussions-là. Alors, tu sais, je suis pas en train de dire que ce qu'il faut faire, c'est revenir à l'époque où c'était le prêtre qui donnait les derniers sacrements, qui disait qui vit, qui meurt.
Non,
c'est absolument pas ça.
Social.
Ça pourrait être un travailleur social. Ça pourrait être le travail d'une classe spécialisée qu'on pourrait aussi former là-dessus. De gens qui, justement...
D'accompagnement. Hein?
D'accompagnement, d'accompagnateurs. De gens qui travaillent pas pour l'hôpital, qui travaillent pas pour le système de santé, qui travaillent pour le bien-être de tout le monde là-dedans, on a une espèce de retour à cette réalité-là, mais je veux dire, à quoi ça ressemble, je ne sais pas, là, on est en train de lancer des idées. Là.
Tu vois, c'est la semaine dernière qu'on avait les vœux Leclerc Communication, puis tiens, on donne une partie du montant qui est amassé au centre de soins palliatifs pédiatriques du CHU. Puis parmi les invités qu'on avait, il y a un conseiller spirituel, puis c'est Catherine Bachand qui vient de me texter en disant « Hey, il y a ça dans l'équipe de la docteur Laflamme », puis lui, c'est un peu son rôle d'accompagner des gens, pas juste des enfants, mais qui sont dans une période, pas nécessairement de fin de vie, mais des périodes de santé qui vont être plus difficiles pour justement amener certaines réflexions puis valider ça en étant en dehors du système de santé. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant que ça... Fait que tu vois, ça existe encore, mais c'est pas très c'est pas très commun. Là.
Ben, ça semble être quelque chose qui se fait un peu au cas par cas selon l'organisation de l'hôpital local. Peut-être qu'il y a des bonnes leçons à tirer là où ça fonctionne, qu'on pourrait le généraliser ailleurs. Mais je veux dire, je pense qu'il y a peut-être une espèce de triple rôle. Il y a d'abord ben, le patient qui idéalement prend la décision finale, oui. Toujours. Il y a ses conseillers de sa famille, disons, les gens de sa vie personnelle qui sont là pour l'appuyer, peu importe avec quoi sa décision. Il y a les experts médicaux qui, eux, ils ont l'expertise d'apporter de l'information de la façon la plus impartiale possible et avoir une espèce de facilitateur là, pour aider tous ces gens-là à se parler entre eux, à s'assurer que le ton reste positif, reste serein. Peut-être que ce rôle-là serait à investir un peu plus.
Puis c'est peut-être à le faire en famille, d'où l'importance d'en parler aux proches. Mm-hmm. Tu sais, je sais que moi, dans mon entourage, j'ai une personne qui a des comorbidités, donc plusieurs petits problèmes de santé, mais je me doute bien qu'un jour, on ait dit « Hey, tu vas être sa part descendante, on pourrait te faire telle intervention. » Ça rallonge pas nécessairement ta vie, mais sur les 12 prochains mois, ben, tu vas en passer 4-5 en convalescence.
Ouais.
Moi, j'ai le feeling que cette personne-là dirait simplement « Hey, savez-vous quoi? Ouais. Arrangez-vous pour que je file correct. Ouais. Au pire, ça sera pas 12 mois, ça va être 8-9,
mais je vais pouvoir
en profiter dans la mesure du possible. » Beaucoup plus que si je me retrouvais justement avec une période où je ne pouvais pas m'exprimer, voir mes proches, faire quoi que ce soit.
Ça, c'est des choix parfaitement rationnels qu'on peut faire confiance aux gens à prendre pour eux-mêmes. La plupart des gens le font.
Il y a beaucoup de textos qui rentrent. Ouais. Il y en a qui sont très à l'aise avec notre conversation. Il y en a qui la trouvent indécente.
Il y en a qui l'ont déjà.
Il y en a qui, tu sais, ça va un
justement,
peu partout.
Justement, on n'a pas un espace social pour avoir ce genre de discussion-là.
Mais
je ne suis pas surpris des réactions et elles sont, je veux dire, vous êtes parfaitement légitime dans votre inconfort présentement parce qu'on vous a pas donné un confort social d'avoir ça.
Absolument. 39 ans, moi et ma femme, on a déjà des termes ou non sur l'acharnement. Je pense que ça devrait plus être un sujet tabou. Ici, on a quelqu'un qui dit « C'est assez sensible comme conversation. J'ai 51 ans, mon fils 19. On écoute. J'aborde le sujet, mais finalement, je veux pas en parler, puis il veut pas en parler non plus. »
Et vous n'êtes pas obligé d'en parler non plus si vous n'êtes pas confortable. Là. C'est vraiment important de le réaliser aussi.
C'est que, mais tu sais, de dire « OK, on essaie de le décider le plus tôt possible ou d'avoir une certaine idée, mais on
la
connaît pas les
changer.
Conditions non
ouais,
plus. » fait que ça va, à la limite, c'est dur de prendre une décision d'avance sur qu'est-ce que sera ta décision quand tu vas être mis au pied du mur.
Moi, je pense que c'est pas de prendre la décision. C'est d'en parler pour avoir fait une partie de chemin avant que peut-être tu te retrouves dans cette situation-là.
Moi, je sais pertinemment que demain matin, j'ai un accident qui fait que je suis légume pour le reste de ma vie, puis j'ai juste mes deux trous dans la face, là, tu comprends?
Moi, c'est refus de soi, mes parents sont déjà avertis.
Oui, oui, moi, tu me laisses
pas... Je voulais faire notarier, puis tout.
Je m'en vais pas, je m'en vais pas dans un centre en chaise roulante où j'ai l'impression que je vais comme être un poids de société, parce que de toute manière, je vais faire que de la peine à mes proches qui vont me visiter, puis je suis plus fonctionnelle.
Est-ce que il y a beaucoup de citoyens qui ont cette décision-là, comme toi, Véro, puis comme toi, Audrey, par exemple? Est-ce que s'il y en avait plus, le système de santé irait mieux?
Mais c'est parce qu'il y en a qui
parce que là, tu as moins de ressources qui sont attribuées à ton cas. Si, dans ton cas, on aurait
la
possibilité de mettre 800 heures, puis des dizaines de milliers de dollars, puis du temps, puis une chambre que tu utilises aussi.
Mais c'est sûr que ça allège.
Ben oui.
Moi, j'ai une amie qui a pris cette décision-là, puis malheureusement, il est arrivé un accident qui fait en sorte que on l'a pas gardé sur terre parce que c'est pas ce qu'elle voulait dans un cas où ça lui arrivait.
Oui, je pense que la chose la plus importante, par exemple, c'est que ça reste toujours le choix de la personne
en
premier. Ça se peut entièrement que quelqu'un se dise « Moi, je suis bien confortable à passer le reste de ma vie en chaise roulante parce que ça va me permettre justement, je vais écrire, puis je sens pas que je vais être un fardeau à la société, je vais pouvoir continuer à voir ma famille. » Mais que ça reste le choix de chaque personne, puis il faut surtout pas commencer à donner l'impression qu'on veut invalider les choix de personnes qui font des choix différents des nôtres aussi. C'est la chose la plus personnelle qu'on peut imaginer, ça.
Ça pourrait-tu, puis là, on jase pour jaser, pour faire le monde, là, mais tu sais, mettons, le don d'organes, t'avais le petit collant là, derrière ta carte soleil que tu signes, là. On fait-tu encore ça?
Oui, on n'a pas le choix, c'est encore la manière de faire.
Vérifiez votre carte si c'est pas fait, là, parce que si c'est pas signé, ça peut être difficile au moment.
Oui, absolument, parce que ça, c'est au moins
la famille peut s'obstiner.
Exact, tandis que là, la décision te revient. Mais ça pourrait-tu être genre un document qui existe sur le site du gouvernement avec les possibilités de, je sais pas moi, tu fais un anévrisme puis il arrive ça. Tu fais, tu sais, des situations extrêmes. Ça pourrait-tu être un document auquel on a accès qu'on pourrait faire notarier justement? Tu sais que toi, tu prends les décisions d'avance sur papier pour toi. Ça pourrait-tu... Parce qu'il y a des familles où ces conversations-là, elles sont pas ouvertes.
Ouais. Ou ça peut faciliter la conversation de commencer avec quelque chose par écrit aussi. Il y a beaucoup, de gens, c'est beaucoup plus facile d'écrire ses pensées pour en parler après. De là à l'idée d'un espèce de registre sur notre dossier médical qui dit voici ce que j'accepte, ce que j'accepte pas d'avance. Ça, je sais pas. J'ai pas assez de connaissances sur le système médical. Peut-être que ça existe déjà,
parce que
je sais pas.
Moi, je m'étais déjà. On avait déjà vu ça dans certains films, là, un DNR tatoué en quelque part, mettons, sur la poitrine. Ça n'a aucune valeur. Il faut vraiment que tu fasses notarier quelque chose. Pour, s'il y a personne de ta famille, pour consentir, dire « Hey, je veux pas être réanimé dans telle circonstance. » Mais encore là, tu le traînes pas avec toi. C'est pas comme un bracelet qui va te dire que t'es allergique à la pénicilline, par exemple.
Mais tu sais, je me dis, si ça traîne ces internets, puis t'as le choix ou pas de l'utiliser, dans le sens que tu peux pas l'utiliser de ta vie, si tu veux, là. Mais que si, mettons, toi, tu le sais que dans tes convictions, puis que ta famille est pas d'accord avec ça... Tu veux que ça se termine à tel moment, bien au moins, si ça existe, c'est là, puis tes volontés sont respectées. On jase.
Il y en a qui veulent même pas parler de testament. Fait que...
mais c'est tellement compliqué parce que, je veux dire, c'est, légalement, c'est extrêmement compliqué parce qu'on parle souvent de gens qui sont en perte de capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes.
On l'a parlé avec l'aide médicale à mourir.
Elle
tu
est
dois
où exactement la ligne?
Dernier moment.
C'est ça. Alors, si je suis en perte d'autonomie, est-ce que je suis encore capable de prendre ces décisions-là? C'est extrêmement complexe. Il va falloir le faire avec beaucoup de soin.
Puis, tu sais, la situation. Dont on parle, on n'est pas, c'est pas unique. Est-ce que ailleurs dans le monde, c'est des conversations qui ont déjà eu lieu à un autre niveau, à un niveau peut-être politique ou scientifique?
Il y a des places dans le monde où ça s'est fait très mal. On peut facilement penser, puis ça, je pense que c'est la peur derrière la tête des gens qui pensent à ça, des espèces de situations soviétiques où est-ce que c'est vrai, c'est de la propagande, je ne sais pas trop, mais c'était essentiellement des comités de médecins avec des tableaux actuariales qui prenaient la décision de qui allait recevoir des soins, qui n'allait pas en recevoir en fonction des ressources qui étaient disponibles. T'sais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est absolument pas de
c'est
ça
terrible.
Qu'on parle.
Ce
n'est pas ça qu'on veut. Il y a des endroits dans le monde où ça se fait de façon un peu plus paternaliste par le système médical, où c'est un médecin qui peut par lui-même décider, ou même s'il peut pas, il n'y a pas techniquement le droit, c'est largement toléré que le médecin, au milieu de la nuit, dise « Écoute, c'est fini, on te débranche. » Puis le lendemain matin, on appellera la famille pour dire « Il est mort dans la nuit. » Il y a des places dans le monde où c'est comme ça. On veut pas ça non plus. Alors, il y a plein d'exemples de comment pas le faire. Il y a pas encore beaucoup d'exemples de comment bien le faire. Et on est un peu frileux à vouloir innover là-dessus pour des excellentes raisons que la pente, elle est très, très glissante vers des choses qu'on veut absolument éviter.
Hey, ça fait plusieurs personnes qui me le textent, là. Il y aurait les mandats d'inaptitude qui existent, que tu peux faire notarier, justement, qui sont un peu dirigés. Là-dedans, il y a des affaires de qui va prendre soin de tes biens personnels.
Mettons, demain matin, tu n'es plus en mesure de prendre des décisions, tu peux mandater quelqu'un.
Oui, puis tu peux mettre sur papier exactement quelles sont tes volontés pour que cette personne-là ait l'obligation de les respecter par rapport même à ta santé. Fait qu'il y aurait ça qui existe là, présentement que vous pouvez retrouver.
Puis qui existe depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on
vraiment,
en parle pas.
Vraiment.
Mais ça, souvent, ça va te propulser dans une autre... Faut que tu sois plus en mesure de prendre des décisions. Ouais. Mais effectivement, tu pourrais faire ça puis dire ben refus de soins dans mon cas parce
le
que c'est ton...
de la RAMQ.
Exactement. Mais gars, tu vois, ça peut faire partie, mais ça rentre pas à l'endroit où on était de te faire dire oui ou non. On continue ou on fait telle procédure.
Oui. Mettons que je comprends que le gouvernement n'est pas en train de faire des campagnes de publicité pour sensibiliser les gens à ce que ça existe, ça aussi.
Non,
là,
j'avoue.
C'est tellement sensible.
Mais ça serait pas populaire. Là.
Non,
mais j'ai comme l'impression en même temps que c'est le genre de discussion qu'il faut qu'on aille comme société.
Ouais, et c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement québécois aussi, penser qu'il faut que les initiatives viennent nécessairement du gouvernement qui soient réglementées. Là. On n'a pas besoin de loi ou de règlement pour avoir une discussion avec notre famille, pour penser, même si ça veut juste dire, regarde, prenez-vous un petit scotch à un moment donné, un petit soir là, devant un feu, puis juste pensez par vous-même à qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire, quels risques vous êtes prêt à prendre, etc. Ça peut juste être aussi simple que ça.
J'adore ce genre de discussion-là. Puis je le sais qu'il y en a que là, ils ne filent pas bien. Ils n'ont pas le goût d'entendre parler de ça. Comme si de parler de la mort amenait nécessairement une fatalité à court terme, alors que c'est pas ça.
C'est une façon d'apprécier sa vie, d'être conscient de ça.
Du moment où tu nais, c'est sûr que tu vas mourir un jour.
Ouais.
C'est pas nécessairement le moment, mais ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Fait qu'autant en jaser, l'apprivoiser aussi.
Je veux le dire parce qu'on en a parlé tantôt là, des soins spirituels, là, le service spirituel. Au CHU de Québec, tu sais, tantôt, on parlait des soins palliatifs pour les enfants et tout, mais c'est un service pour littéralement toute clientèle. Ça sort des soins palliatifs pédiatriques.
Nicolas qui était là, c'est ça qu'il avait raconté en ondes, que même quelqu'un qui venait d'avoir un diagnostic de cancer, il ne mourra pas demain matin, peut-être qu'il ne mourra même pas. Mais malgré tout, d'avoir quelqu'un
quelqu'un avec qui parler, qui n'est pas nécessairement rentré dans. Tu n'as pas toujours besoin d'un psychologue, là. Des fois, tu as juste besoin d'une oreille, en effet.
C'est tellement le fun de trouver n'importe quelle excuse pour que tu viennes t'asseoir en studio avec nous autres puis penser en dehors de la boîte. Je pense que c'est essentiel comme société si on veut avancer. Puis je trouve que tu y contribues très bien. J'invite d'ailleurs les gens à te suivre sur, entre autres, TikTok, Farnell.